Active Directory Federation Services ou ADFS est, comme son nom l'indique, un service de fédération basé sur Active Directory. ADFS permet d'offrir une authentification unique dans des scénarios web, que ce soit pour un accès depuis l'interne ou depuis l'externe, le scénario le plus utilisé étant la fédération avec Office 365. La version d'ADFS, disponible avec Windows Server 2012 R2, constituait déjà une évolution majeure dans le service, avec l'enregistrement des appareils et la possibilité d'implémenter du contrôle d'accès conditionnel. Donc la nouvelle version d'ADFS 2016 va encore au-delà. Elle va permettre d'offrir de nouveaux scénarios utilisateurs, une simplification de l'administration et pour les développeurs de nouvelles possibilités. C'est ce que nous allons voir. Donc bonjour Philippe.
Bonjour Jean-Yves.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette nouvelle version d'ADFS?
Eh bien, écoute, volontiers. Donc, cette nouvelle version d'ADFS, en tout cas par rapport à la Technical Preview, version préliminaire 5, qui est la dernière version de Windows Server 2016 disponible à ce jour, puisque le produit n'est pas encore complètement sorti, apporte un certain nombre d'améliorations, comme tu le suggères. Alors, on va peut-être les classer. Ce que je te propose, c'est qu'on les classe peut-être selon trois perspectives, comme le dit la diapo. Donc, commençons par l'utilisateur. C'est peut-être déjà la partie émergée de l'iceberg, de ce que l'on voit
Donc, le scénario utilisateur.
en scénario utilisateur. Et bah, intéressons-nous à l'authentification. Donc, vis-à-vis de l'authentification, potentiellement trois points qui me semblent intéressants et potentiellement majeurs en tant que tels. Une meilleure interopérabilité avec Azure MFA. Donc, tu évoquais un certain nombre d'extensions qui avaient été proposées avec ADFS dans Windows Server 2012 R2, en particulier la capacité de pouvoir déclarer des fournisseurs d'authentification externe. Dans ce contexte-là, c'était une capacité assez élégante pour pouvoir rajouter des capacités d'authentification multifacteur ou d'authentification forte. Et dans les possibilités qui étaient offertes, tu avais la partie MFA Server, Multifactor Authentication Server, qui était la composante à demeure de la solution Azure MFA dans le cloud.
Donc il fallait absolument qu'on ait ce composant qui soit installé en fait
Donc, alors, et ce composant, dans la pratique, tu avais à la fois la notion de fournisseur d'authentification, mais tu avais une vraie application à configurer sur l'environnement en local avec la description des utilisateurs qui allaient bénéficier de ces capacités, un certain nombre d'opérations à faire. Donc, comme c'est indiqué ici, bah, plus besoin de le faire. Là, c'est vraiment un fournisseur d'authentification, mais qui s'appuie directement sur la capacité cloud Azure MFA.
D'accord, donc ça veut dire qu'on ne va pas avoir à dupliquer les bases de compte, etc. Cette partie configuration, en fait, on n'aura pas à la dupliquer.
Alors, tu n'avais pas une duplication, en fait, c'était vis-à-vis d'Active Directory, tu t'appuyais sur ton Active Directory en
Oui,
local, mais par
bien
contre, tu
sûr.
avais une duplication d'une certaine façon des tâches d'administration. Le point important qu'on va retrouver également, c'est la possibilité d'utiliser ces mécanismes d'authentification additionnels. Non pas comme effectivement une capacité additionnelle. Donc dans ADFS, dans Windows Server 2012 R2, il fallait d'abord commencer par s'authentifier sur la base d'un user mot de passe. L'appareil avait potentiellement un rôle, mais pour simplifier, une première authentification réussie sur utilisateur mot de passe et ensuite la possibilité d'ajouter un mécanisme d'authentification additionnel. Là, ici, on peut simplement dire que ce mécanisme en question devient l'authentification primaire.
Donc, ce qui veut bien dire que avant, j'étais toujours obligé de commencer par identifier un mot de passe. Et donc maintenant, je vais pouvoir
Tout à fait.
utiliser un autre mode d'authentification, que ce soit certificat, PIN ou
Exactement.
SMS OTP.
Fonction des fournisseurs
Voilà,
d'authentification externe.
comme authentification
Alors,
primaire.
pour ce qui est d'Azure MFA, ça suppose au niveau de la ferme ADFS d'avoir une certaine configuration qui se réalise en PowerShell, comme c'est indiqué, qui suppose de pouvoir réaliser vis-à-vis de l'application et du principal de service dans Azure AD sur lequel s'appuie Azure MFA, une authentification par certificat. Donc il y a besoin de créer un certificat en local.
D'accord, donc ça c'est la partie configuration.
Voilà, et ensuite de l'associer. Le point important, c'est qu'on va retrouver ce mécanisme sur l'enregistrement d'appareils, donc une évolution dans ce contexte-là qui permet aussi de pouvoir utiliser l'appareil pour s'enregistrer comme mécanisme primaire. Donc on va retrouver et la possibilité également pour l'appareil de participer à un accès conditionnel. Alors, accès conditionnel hybride, puisqu'on va pouvoir intégrer typiquement une gestion qui pourrait être faite avec Intune sur la capacité de... C'est un appareil qui est géré, qui est conforme à la politique d'entreprise.
Voilà.
Et c'est des éléments qui sont pris en compte. Autre point intéressant dans cette perspective, c'est l'intégration avec Windows 10 et Microsoft Passport qui permet, au-delà de ce que permet de ce qu'offre Passport dans la capacité à ne plus reposer sur un mot de passe, mais de s'appuyer sur une bi-clé pour l'authentification, c'est la possibilité d'avoir une expérience d'authentification unique, mais quel que soit l'emplacement de l'appareil, que ce soit dans le réseau de l'entreprise ou à l'extérieur, et vis-à-vis de ressources qui sont aussi bien sur le réseau de l'entreprise ou dans le cloud. Donc avant, tu sais que selon l'appareil, tu pouvais être amené éventuellement à être reprompté, notamment si tu accédais au travers d'un serveur d'application proxy web de l'extérieur, tu étais reprompté. Là, tu as une notion de primary refresh token, PRT, qui va être quelque part un peu ce qu'est le TGT. En Kerberos.
Absolument. Donc, c'est, en fait, ce qui est important, c'est de voir que finalement, c'est à travers ADFS 2016 qu'on va pouvoir faire cette authentification sans mot de passe Passport, donc qui est intégré avec Windows 10.
Dans un contexte étendu.
Et voilà, et dans un contexte étendu où tu disais finalement, ce PRT, ça correspond un petit peu
au TGT,
TGT de Kerberos.
Et dans un scénario hybride, tu vas avoir les deux simultanément et les deux vont être utilisés.
Et donc, tu vas pouvoir utiliser ce fameux PRT comme preuve d'authentification pour récupérer d'autres jetons pour accéder au service.
Alors, ce que je te propose pour continuer un petit peu, d'un point de vue administrateur, également un certain nombre d'évolutions marquantes. On a essayé de retenir ici les principales. Alors, on avait une notion de règles de revendication, de claim rules en anglais, dans la version précédente, avec des règles potentiellement à exprimer au niveau d'un relaying party ou de l'application qui va consommer finalement le résultat de l'authentification ADFS. Le faire au niveau de l'émission, donc on pouvait définir des règles au niveau de l'émission d'un jeton et on pouvait définir des règles au niveau de l'autorisation à émettre un jeton.
C'était le fameux description avec le pipeline et voilà toutes les conditions.
C'était à ce niveau-là. Alors, potentiellement des règles à exprimer à différents endroits, un langage de règles un peu ésotérique, simple de premier abord. Et autre point, c'est quelque chose qui se positionnait au niveau de chaque ressource qui s'appuyait sur ADFS. Donc potentiellement, si tu avais les mêmes règles à définir pour des ressources différentes, il fallait les réexprimer.
D'accord.
Donc maintenant, finalement, une EHM qui va guider l'administrateur pour décrire des règles.
Voilà,
avec des
plutôt que d'utiliser ce
des
langage.
Choses très très simples et la possibilité ensuite de les appliquer à des ressources.
D'accord.
L'autre point, c'est une vieille demande qui est de dire on a des attributs, des magasins d'attributs additionnels que l'on pouvait rajouter à ADFS. Ça existe depuis les toutes premières versions.
Oui.
Mais quand il s'agissait de faire l'authentification ADFS,
c'était de l'AD.
S'appuyait de façon historique. Quand tu dis AD, c'est ADDS, ADLDS.
Oui.
Donc aujourd'hui, c'est la prise en charge au travers de commandes PowerShell de pouvoir supporter finalement un annuaire LDAP conforme V3.
D'accord.
Alors ça permet de prendre en charge les annuaires autres qu'Active Directory, mais Active Directory est également un annuaire conforme LDAP V3. Et un avantage dans ce scénario, c'est par exemple la capacité de pouvoir, depuis un environnement ADFS, au niveau de ta forêt, pouvoir également référencer des annuaires AD qui correspondent à d'autres forêts vis-à-vis desquelles tu n'as pas forcément une relation d'approbation de forêt.
D'accord. Donc ça marche à la fois pour d'autres annuaires type OpenLDAP, mais également dans des scénarios où effectivement, ce multiforêt,
dans lequel dans des acquisitions, ce qui arrive assez souvent, et du coup, la possibilité d'avoir une seule plateforme ADFS, mais qui derrière va pouvoir réaliser l'authentification.
C'est une vraie souplesse par rapport à des scénarios qui sont souvent assez complexes.
Autre point qui était assez demandé, c'est le dernier point sur l'administration, c'est la possibilité d'avoir, peut-être dans les organisations vis-à-vis d'applications cibles et de populations cibles qui sont différentes par rapport à ces applications cibles, d'avoir des expériences graphiques au niveau de l'authentification ADFS qui soient différentes et qui soient par application cible.
Oui, parce qu'avant, c'était la même pour tout le monde.
Voilà, c'est personnel, c'était personnalisable dans 2002, mais la même pour tout le monde, quelles que soient les ressources.
Oui,
donc là, la possibilité d'avoir des messages, des images, des logos, jusqu'à la définition de nouveaux thèmes web et de pouvoir appliquer ces thèmes web nouveaux par application. d'authentification.
En termes de customisation, c'est beaucoup plus intéressant.
Et en termes de troisième perspective que je te propose, c'est celle du développeur. Alors, historiquement, ADFS, c'est une plateforme qui est compatible avec WS Federation, WS Rest, SAML 2. La possibilité de pouvoir faire une notion de passerelle, par exemple, c'est les scénarios qui ont souvent servi à l'interopérabilité, avoir par exemple un bout du dialogue en WS Federation, un autre en SAML 2. Oui. La version 2012 R2 a apporté un premier support d'O2, quelque part limité, mais qui permettait en PowerShell de pouvoir prendre en charge les applications natives ou dans le verbiage d'O2, ce qu'on appelle des clients publics. Mm-hmm. Donc cette partie-là, en fait, aujourd'hui, par contre, ce que l'on voit dans les applications dites modernes, donc O2, O2, ça suppose de supporter O2 pour accéder à des ressources ou à des API web. Ça suppose de le faire avec différents flows, donc il y a différents flux qui existent en O2, ça supporte de tous les supporter. Et on a également des combinaisons maintenant, typiquement comme c'est ce qui est décrit ici, on peut avoir une application serveur web qui s'appuie derrière sur une API web, on peut avoir une application type single page application avec des frameworks JavaScript modernes, oui, qui ensuite va reposer également sur un back-end ou d'une API web qui appelle une autre API web. Donc on a un peu toute cette combinatoire. Et jusqu'à maintenant, avec ADFS dans Windows 2012 R2, on ne savait pas le traiter. C'est un des gros apports de la version dans Windows Server 2016, en tout cas tel que disponible avec l'ATP5. Ça permet en fait de prendre en compte ces typologies et avec derrière une prise en charge complète du protocole OpenID Connect, qui est un must-have aujourd'hui dans les nouveaux scénarios pour les développeurs. Et OpenID Connect étant une surcouche d'O2, bien évidemment, dessous les protocoles
O2. Donc là, on voit ce qui est intéressant, c'est que au-delà des protocoles qui ont été historiques, effectivement, comme tu disais, SAML, WS Fédération, etc. Donc là, on a vraiment pris le chemin d'O2 et effectivement, on est capable de travailler dans des modes, d'offrir des modes
qui correspondent à ce que les développeurs ont envie de développer aujourd'hui. Absolument. En tout cas, à la
Donc
demande.
Là, effectivement, c'est une véritable avancée également. Je te propose à ce moment-là qu'on passe à une démonstration.
Donc, petite illustration, j'arrive. Donc, nous voilà en fait sur une page MIRD d'une implémentation locale d'ADFS dans Windows Server 2016, version préliminaire. D'accord. 5. Comme tu peux le voir, on est dans une redirection qui vient d'Office 365, un cas d'usage. D'accord. Où on a une personnalisation ici liée à l'entreprise fictive qui s'appelle ici Litware 369. Donc, si on essaye de reprendre un peu rapidement nos thématiques, on avait une première dimension qui était l'authentification, si tu te souviens, où on avait précisé que maintenant on avait une intégration améliorée avec Azure MFA, donc tu vois, Azure MFA en authentification multifacteur, et on peut l'activer en authentification primaire. Donc toi, ici, je vais par exemple cocher Azure MFA, je suis en extranet, authentification primaire, je l'applique, OK. Et tu vois, je suis sur la mire et à la place de utilisateur mot de passe, je peux sélectionner Azure MFA. Je te propose qu'on continue à découvrir les autres fonctionnalités. Donc, on avait évoqué la notion de politique de contrôle d'accès. Donc, dans l'interface, tu as effectivement un nouveau dossier qui s'appelle politique de contrôle d'accès. Donc, tu peux voir ici, on a toutes les politiques qui sont prédéfinies, avec un certain nombre de cas de figure qui sont relativement courants en termes de mise en œuvre, avec une notion de requête de politique paramétrée ou pas. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, au moment de l'application, sur une ressource donnée, on va pouvoir préciser un paramètre par rapport au prédicat qu'on va utiliser pour le contrôle d'accès conditionnel.
D'accord.
On va pouvoir préciser une valeur. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va s'en créer une, tout simplement. On va l'appeler « test ». Jusque-là, rien de particulier. On peut mettre une description. On peut demander à fournir à chaque fois, pour avoir de mécanismes de cache et autres, tu vois, par rapport à la politique.
Hein, faire en sorte que,
pour une ressource un petit peu sensible, on peut mettre un grand sensible devant, donc ça serait test sensible.
D'accord.
Et si j'ajoute, on va retrouver quelque chose qui est un peu comme l'éditeur de règles dans Outlook, pour les personnes qui connaissent. Hein, ça va te rappeler des choses. Et tu vois, on peut permettre soit à tout le monde, soit à certains utilisateurs. Alors, depuis, par exemple, des utilisateurs qui vont appartenir à certains groupes de sécurité, utilisant des appareils avec un certain niveau de confiance, et on va requérir, par exemple, une authentification multifacteur. Et tu vois ici, spécifique groupe, et si on sélectionne spécifique, on peut dire ici, c'est un groupe de sécurité, et là, on va aller chercher directement. Donc là, on l'instancie. Mais on peut dire, c'est un paramètre qui va être spécifié lorsque la politique va être attribuée à une ressource. D'accord. En faisant cela pour celui-ci, et ensuite, avec les appareils avec un certain niveau de confiance, et on parlait de, est-ce que l'appareil est authentifié ? Tu sais quoi, tu as évoqué la notion d'enregistrement
d'appareils. Appareils.
Donc, oui. Selon la configuration, l'enregistrement pourra être réalisé en local ou de façon préférentielle pour les scénarios hybrides aujourd'hui dans Azure Active Directory, oui. Avec un abonnement premium, la capacité ensuite de redescendre l'enregistrement dans l'AD local. Et la connexion, l'intégration dans ce contexte-là, par exemple avec Intune, et dire, par exemple, mon device, il faut que mon device soit conforme à la D'accord. politique de sécurité. Donc, on va le sauvegarder, on ne va pas aller plus loin. Alors, si juste un point, on peut définir aussi des exceptions, le cas échéant.
D'accord.
Donc, on va le sauvegarder.
On voit que c'est assez simple, hein, quand même, pour pouvoir définir.
Quand même, par rapport au langage de règles. On ne verra pas la boîte du langage de règles, mais c'est assez simple. Et bon, là, j'ai peu de ressources, mais on va prendre une ressource et on va éditer la politique de contrôle d'accès. Et là, ça va être encore plus simple, parce que tu vois, ma politique test, je vais dire ça, voilà. Et là, je retrouve mon paramètre.
Le fameux paramètre que tu vas pouvoir et
là,
adapter. Finalement.
Cette fois, à la ressource, et je vais dire, alors mettons, je ne sais pas ce que j'ai en groupe, voilà, alors on va faire, c'est pour les utilisateurs. Bon, donc ça revient à faire presque tout le monde, hein, ici. Et on va faire, voilà, OK, appliquer. Et si je reviens derrière au niveau de mes politiques d'accès, on voit que la politique d'accès ici est en utilisation. Il y a D'accord. une ressource qui l'utilise.
Très bien.
Côté peut-être vue développeur, pour conclure, donc on parlait des applications modernes. Donc aujourd'hui, dans les applications modernes, on va retrouver notre application native, les apps classiques que l'on a sur les stores Android, iOS, Windows 10 mobile. On va retrouver les applications web ou les sites web, les API, et on peut retrouver ce qui correspond aux architectures client-serveur finalement d'aujourd'hui, une apps sur son smartphone qui va attaquer une web API, une application web qui va attaquer une web API. Donc si tu veux voir rapidement comment les choses se passent, donc on va l'appeler test 1, parce que j'ai créé test pour rapidement faire une démonstration de la version qui fonctionne. Donc, comme avec O2 Panel ID, on a une notion d'identificateur client. Donc ça, c'est l'identificateur client qui est attribué à l'application web. On verra comment ça se passe. Donc c'est une valeur qui est annotée, c'est la façon dont D'accord. l'application Ah, oui. web est connue. Il y a une notion de redirection après l'authentification.
Donc il faut aller.
Si je vais sur l'application web, j'ai besoin de m'authentifier, donc l'application elle va rediriger sur le serveur DHCP. Une fois que j'ai été authentifié, il faut revenir sur l'application web. Donc là, il va fournir ici une URL. Donc on va faire quelque chose qui ressemble à la configuration que j'ai tout à l'heure. Donc on va faire. Donc on l'ajoute. Donc ensuite, comment l'application en fait crée la confiance avec l'environnement ADFS? Donc, ce qu'on fait généralement, on peut le faire avec un certificat, une authentification intégrée, mais faisons-le comme ça le fait dans pas mal de cas de figure, y compris avec un secret partagé. Donc, c'est le seul endroit où il faut faut copier le secret. Donc, on va le copier. Ensuite, il y a l'API web qui va être accédée depuis l'application web.
Ouais.
Donc là, on va préciser également. Une URL, si j'enlève les moufles, hop, on l'ajoute, next. Ici, on retrouve une politique de contrôle d'accès, donc c'est cohérent avec ce que l'on a vu précédemment, disons que c'est pour tout le monde. Et derrière, qui dit API web, dit potentiellement la définition d'un périmètre d'accès, donc par exemple, ce que l'on veut, c'est la personnalisation de l'utilisateur, donc c'est ce qui sera demandé, on peut rajouter des périmètres personnalisés. Et puis ici, il suffit de faire next. Et là, on fait close et c'est créé. Donc moi, j'avais créé la même chose. Donc ça, c'est test 1. C'est celle que l'on vient de faire ensemble. J'en ai pré-créé une qui est ici test, qui référence sur un 44.322 une application web et une API web sur le port 44.321. Donc ça, c'est ce que j'ai en fait tout simplement dans mon application Visual Studio. Et donc j'ai une application web qui s'appelle To-Do List Web App et j'ai un service API web qui s'appelle To-Do List Service. Dans la pratique, en fait, c'est, on est aussi dans une notion de symétrie, c'est un point que l'on n'a pas mentionné. Le but, c'est aussi d'essayer de reproduire la meilleure symétrie possible entre Azure Active Directory et l'environnement en local avec les capacités qu'on avait déjà dans Azure Active Directory et les positionner au niveau ADFS, même si les deux fonctionnent de concert, pour vraiment laisser le choix le plus approprié d'une mise en œuvre. Et là, je suis reparti en fait d'un exemple assez classique qui est défini, qui est disponible sur la forge GitHub, qui est un exemple Azure AD que j'ai un peu modifié au niveau de la bibliothèque ADAL, donc Active Directory Application Library, pour l'adapter à un contexte ADFS. Donc ça suppose de modifier quelques parties dans le code et de modifier ici les valeurs au niveau du fichier de configuration. Mais on va retrouver notre client ID tout à l'heure. Enfin, un équivalent, la clé partagée, le secret partagé.
Le secret partagé qui a été créé.
On va causer un ADFS, donc on va aller sur le point de découverte OpenID Connect qui est exposé par ADFS, et puis là on va retrouver notre application web, et là on va retrouver notre API.
Redirection, etc.
Donc ce que je propose, c'est qu'on l'exécute. Donc tu vois, on a deux onglets qui se chargent, on en a un, ça c'est l'API web, API c'est écrit, et là c'est notre application web. Donc si je me connecte, voilà. Et si j'invoque mon service, mon API web, à ce niveau-là, on va faire un test 3. Et là, je viens d'invoquer avec succès mon API web. Voilà ce qui, petit tour rapide, en fait, des fonctionnalités d'ADFS dans Windows Server 2016, version préliminaire 5.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Allez regarder les ressources complémentaires qui vous sont proposées. Et merci Philippe.
Merci Jean-Yves.